6h03, lundi 12 avril. Bonne journée, bienvenue au 98,5. Ce matin, nous avons de belles conditions. C'est un peu nuageux, c'est 8 degrés, mais le maximum prévu, c'est 18 degrés, avec en alternance soleil et nuages aujourd'hui. Demain, une autre belle journée, ça continue, 17 degrés, généralement ensoleillé. Et donc, ça se couvre vers le milieu de la semaine, avec du temps nuageux, autour de 9 degrés, possiblement de la pluie vers la fin de la semaine, jeudi, vendredi, surtout vendredi. Mais on vous donnera plus de détails, évidemment, dans les jours qui viennent. Maintenant, parlons de cette manifestation, cas de grabuge hier dans le Vieux-Montréal. Envie de vous dire que tous les ingrédients étaient réunis. D'un côté, une écœurantite, je pense, depuis un an, là, de mesures, puis de restrictions, puis d'entrave aux libertés. Deuxièmement, un week-end où il fait beau, il fait chaud, on est à l'extérieur. Les gens sortent, vont dans les parcs. Et vous m'avez tellement envoyé de photos, là, puis je vais essayer de résumer ça ce matin. C'est sûr que les parcs débordaient, c'est sûr que les gens ne respectaient pas toutes les mesures sanitaires. Des gens qui se livraient à des activités sportives, et qu'il aurait fallu porter le masque, il fallait garder le 2 mètres, mais bon, on sait très bien. Puis les policiers ont donné des constats au tam-tam, ont donné des constats à d'autres endroits. Mais tu sais, je regardais ce matin Marina Delmer dans l'Outaouais bondée, un casse-tête pour les policiers. À la Chine, encore là, plein de monde. Les gens ont besoin de sortir, ont besoin d'être à l'extérieur. Et là arrive la soirée, puis le couvre-feu tombe à 20 heures. Comme on le dit souvent, imposer un couvre-feu à 20 heures au mois de février, c'est pas trop grave. Mais quand le beau temps arrive, t'as pas le goût de t'arrêter. Tu regardes l'autre bord du pont à Boucherville ou encore dans d'autres villes de la couronne où le couvre-feu est à 9h30, ben il y a de la frustration. Donc, à travers tout ça, se mêle des casseurs. Alors, hier, on regardait les images, puis vous avez entendu ce que vient de décrire Sabrina. Je comprends des commerçants du Vieux-Montréal d'être en colère. Tu dis, mais comment on a pu laisser ce débordement aller? Est-ce qu'on va être prêt? Parce que ma crainte, c'est qu'on assiste à des événements comme ça à répétition. On a vu les carrés rouges, là. Est-ce que ça veut dire que ce soir, il fait beau, ça recommence? Est-ce que ça va être comme ça? Puis de quelle façon la police va agir? Je pense que la question mérite d'être posée, là. Et pourquoi cibler des gens qui sont eux-mêmes accablés par les effets de la pandémie? C'est un non-sens, mais sauf que l'âge mental de certains casseurs, c'est pas très élevé. Fait qu'essayez pas de raisonner, tu sais, ça devient des pilleurs, puis ils en profitent pour casser une vitrine, puis s'emparer de ce qu'il y a à l'intérieur de certains magasins. Et là, ça, c'est un mélange d'un peu de tout, là. J'ai reçu des courriels, je veux pas les lire ce matin parce que je suis pas capable de confirmer la provenance, mais disons des gens qui revendiquent un peu les gestes posés hier en disant « ça suffit, on veut retrouver notre liberté ». Donc ça, c'est pour ce qui est de la manif. Entre-temps, il y a les hauts et les bas de la vaccination. Et on l'a vu en fin de semaine, il paraît que c'était moins pire hier, mais surtout samedi, on cherchait des gens à qui administrer le vaccin. Et on assiste vraiment aux hauts et bas de la vaccination. On a vu que la machine est capable de livrer 70 000 doses par jour. Je pense à jeudi, je pense à vendredi. Arrive la fin de semaine, paf, ça s'essouffle, les gens ne sont pas là. Rendez-vous ou pas là. Et on est toujours dans les catégories arrêtées. On a élargi un peu pour permettre aux travailleurs essentiels, je pense aux enseignants, d'être vaccinés. Mais la machine manque encore, disons, d'agilité. Je sais que samedi, on tentait de passer le message en disant si vous êtes ceux qui sont admis là, pour la vaccination, venez. Mais en même temps, là, on peut-tu faire appel au sens des gens? Moi, me faire répondre, il fait beau, j'irai pas me faire vacciner. Je m'excuse, là. La vaccination, ça prend pas 6 heures, là. Tu perds pas ta journée parce que tu vas te faire vacciner, sérieusement, là. Puis ce qui est triste dans tout ça, c'est que tant de gens qui veulent être vaccinés, qui ne demandent rien que ça, là, et qui ne sont pas dans les groupes cibles. Ce matin, vous avez dans le devoir des gens qui souffrent de maladies chroniques, qui se sentent vraiment là, tablettés, et qui se disent, on ne comprend pas pourquoi on est laissé dans une espèce de flou complet. Il y a plein de courriels de gens qui veulent se faire vacciner, qui ne peuvent pas. Il y en a qui partent de d'autres régions puis qui viennent se faire vacciner à Montréal. Et là, mais c'est quoi le problème? Je l'ai dit la semaine dernière, il y a un problème dans certains cas linguistiques. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a une campagne de vaccination. L'info ne rentre pas. Puis parler aux gens qui sont terrain, là, ils vont vous le dire. Puis il y a des gens qui attendent leur tour. Donc, ce sont des questions d'ajustement. J'espère qu'aujourd'hui, il va y avoir plein de monde, là. J'espère que la vague AstraZeneca, ce n'est pas une vague de courte durée, que les gens vont aller se faire vacciner. Et regardez la mesure prise par le ministère de la Santé pour les gens du réseau, là, qui ne veulent pas être vaccinés. Puis qu'est-ce qu'on dit finalement à ces gens-là? Bien, vous allez vous faire vacciner, sans quoi on va vous tester pour être bien certain que vous n'avez pas la COVID. Et donc, des mesures qui sont prises pour s'assurer que les gens comme ça vont être vaccinés. Parce que beaucoup de travailleurs de première ligne ne veulent pas. Je vous l'ai dit la semaine passée, je regardais des tableaux, là, des établissements où à la fin mars, tu n'avais pas 20 % du personnel de première ligne de vaccinés. Je comprends que des fois, c'est que le vaccin n'est pas accessible, toutes sortes de raisons, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens aussi qui n'en veulent pas. Alors, là, la grande question, c'est comment on s'assure de vacciner au max. Le ministre Christian Dubé disait que la fenêtre demeure toujours le 24 juin. Moi, je veux bien, là, mais il y a deux, trois questions à répondre pour les gens, là. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de monde, comment on fait pour s'assurer, là? Puis c'est pas juste 100 personnes, là. C'est qu'on appelle, des policiers, venez vous faire vacciner. D'ailleurs, quelqu'un va devoir m'expliquer ce matin pourquoi les pompiers ont besoin d'être payés en temps supplémentaire pour la vaccination. Sérieusement, là, j'ai lu les explications, j'ai rien compris. On travaille tous, là, puis on a tous des horaires, puis les policiers ont des horaires, puis on va-tu payer tout le monde? Là, c'est rendu Québec solidaire veut qu'on paye les gens pour aller se faire vacciner. Je veux dire, on peut-tu assumer nos responsabilités de citoyens? Alors, ça, c'est du côté des vaccins. Vraiment, d'un côté, puis quand on se fait vacciner, je vous le dis, là, la machine fonctionne. Oui, il y a des ratés, mais je connais des enseignants, enseignantes qui ont été vaccinés en fin de semaine. Ils n'ont pas eu de misère à trouver. Ils sont allés. Donc, quand on veut se faire vacciner, quand on est dans le groupe, ça va. Et là, le besoin d'agilité est quand même réel. Entre-temps, qu'est-ce qu'on constate? C'est une augmentation du nombre d'hospitalisations. Et là, on le voit, les chiffres sont assez clairs. À travers le Québec, on avait quoi hier? 1500 cas environ. 5 décès supplémentaires et une hausse des gens hospitalisés. Et ce que l'on constate aussi, c'est le ministre Dubé qui le disait, c'est une majorité maintenant de gens qui sont plus jeunes et qui malheureusement ont des séquelles graves. Ils survivent, contrairement aux personnes plus âgées, mais ils vont avoir un lourd prix à payer pour ça. Et c'est l'effet de toutes ces mesures, de rassemblement, puis puis on le sait, les éclosions sont en milieu de travail, puis dans les écoles. Donc, il y a une pression sur le réseau de la santé. On va faire le point un peu plus tard ce matin avec le docteur Gilbert Boucher concernant justement le portrait dans les salles d'urgence au Québec, puis ce que ça veut dire en termes de soins intensifs. Puis en même temps, là, je regarde en Ontario, on ferme des unités pédiatriques. Vous lisez des médecins, puis là, je comprends qu'on peut faire abstraction de ce qu'ils ont à dire, là, mais qui sont convaincus qu'on en a pour quelques semaines encore avec des variants menaçants. Et donc, encore une fois, des patients non-COVID qui ne seront pas traités dans des délais qui sont plus que souhaitables, qui devraient se faire. Regardons quand même d'autres nouvelles ce matin, peut-être juste en parallèle. Puis je le sais que beaucoup de gens sont frustrés. OK? Je le sens, puis je vous lis, puis même des fois, je vous entends. Tu dis, moi, je fais des efforts, puis là, tu te promènes dans les parcs, tu vois ça, puis tu dis, ouais, ça va à peine. Les policiers qui m'écrivent, qui disent, là, on est pris pour faire des constats d'infraction, puis, tu sais, on parle pas, là, juste de gossoyage, là, on parle de gens qui font quand même des rassemblements, qui décident, donc, d'être nombreux. Je regardais hier, je suis allé me promener un peu, là. Mais quand t'as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, là, tu retrouves ta gang. C'est bien sûr que t'es comme une espèce de pain, là, et les gens sont collés les uns sur les autres. Puis là, tu vois, par exemple, des taxis américains qui permettent aux Canadiens d'éviter la quarantaine à l'hôtel. Alors, tu sais, toi, t'es un snowbird, tu prends l'avion, on t'envoie à l'hôtel, mais si tu passes par la frontière terrestre, tu vas pas à l'hôtel. Faut t'aller chez vous en quarantaine. Fait que ça coûte un petit billet d'avion pour aller à Buffalo. Puis après ça, service de limousine, puis on te fait entrer au Canada. Fait que là, tout ça, là, tu sais, c'est un paquet d'irritants. Je le disais tantôt, des gens qui veulent se faire vacciner, qui disent « Moi, je suis prêt à y aller, dites-moi où, quand, quelle heure. » Puis qui, en même temps, voient qu'il y a de la place, puis qu'on ne vaccine pas comme on voudrait. Bon, c'était le congrès de Projet Montréal en fin de semaine, congrès virtuel, bien sûr, et il y a eu une série de mesures. Bref, on prépare la plateforme électorale pour l'élection, et Valérie Plante a dit « J'ai besoin d'un nouveau mandat pour être capable de porter à terme, disons, l'essentiel des politiques de Projet Montréal. » Quelques éléments qu'il faut noter. Bon, il n'y a pas de surprise sur la plateforme. On connaît, là, il n'y a pas de grand virement, là. Au contraire, là, c'est dans la continuité, c'est-à-dire le développement durable, c'est-à-dire la mobilité, les concepts qu'on connaît. Là où ça a brassé un peu, d'abord, c'est toujours étonnant qu'un parti décide de se placer en mode huis clos. Dans un congrès, là. Parce que les sujets, semble-t-il, sont trop délicats et pourraient être mal interprétés par les médias et donc par le bon peuple. Ça, ça fait la mentalité politburo, là, tu comprends. On ne veut pas débattre de ça. Pour un parti qui se veut transparent, avouons là, que c'est pas fort. Tu n'es pas capable d'assumer. Il y a même des élus de Projet Montréal qui trouvaient que ça n'a pas d'allure, mais les membres ont voté pour que ça se passe à huis clos. Notamment cette idée concernant le désarmement des policiers. Là, il y a deux tendances, là, c'est-à-dire réduire le financement de la police puis désarmer les policiers. Puis là, on va nous sortir les corps de police en Europe-Londres, où tous les policiers ne sont pas armés. Ce qu'on dit moins, c'est qu'il y a des équipes lourdement armées qui patrouillent la ville. Je regardais hier, là, c'est minimum une vingtaine d'escouades armées pour être capables d'intervenir n'importe où, n'importe quand, le plus vite possible. Puis je pensais à la fusillade du collège Dawson. Puis je me disais, ouais, OK, mettons que le policier là, qui est entré n'était pas armé. Mettons qu'il aurait dû attendre que l'équipe arrive. Lui, là, il était armé, il est entré, puis il a neutralisé le tueur. Qui aurait pu faire bien plus de victimes. Et personnellement, je ne pense pas que la solution passe par un projet pilote pour on va désarmer les policiers. Ça passe par, au contraire, une formation. Puis tout n'est pas parfait. Mais quand on est policier puis qu'on répond à un appel, on ne sait pas nécessairement ce qui nous attend à l'autre bout. Puis souvent, des meurtres de policiers l'ont été dans des circonstances, là. Je me souviens d'un policier sur l'autoroute qui intercepte un véhicule. Je me souviens dans l'ouest de l'île, une simple vérification. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'erreur policière, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bavure policière, mais tu sais, sérieusement, de penser qu'on va désarmer certains policiers. T'sais, je regarde dans Montréal-Nord, puis les coups de feu qui sont tirés, là, il me semble qu'il y a d'autres débats qui sont pas mal le plus urgents. Puis il y a une volonté, je vous le dis tout de suite, si vous habitez dans les couronnes, si vous avez fui vers la première couronne de Montréal, la deuxième, on veut vous rattraper. C'est-à-dire que là, la ville a besoin d'argent, la communauté du Montréal métropolitain a besoin d'argent. Et donc, on veut absolument aller chercher donc des revenus supplémentaires. Ça revient, là, tu sais, la facturation au kilomètre. Plus tu habites loin, si tu viens travailler à Montréal, bien, tu vas payer. Notre ami Luc Ferrandez est un ardent défenseur de cette théorie. Mais là, comment tu arrives à convaincre les gens qui disent « Moi, je fais le choix d'aller vivre ailleurs. Est-ce que je vais payer des taxes? » Je comprends si tu te déplaces avec ton véhicule, c'est une chose. Mais bon. Et entre-temps, les débardeurs du port de Montréal ont envoyé un avis de grève. Et c'est pas banal, le port de Montréal. Je veux se rappeler ça quand même. Et on a vu le ton monter. D'ailleurs, le représentant syndical qui s'est accroché sur les réseaux sociaux avec Mme Plante, qui sera notre invitée tantôt, t'as pas la classe ultime là, de dire à la mairesse de Montréal de se la fermer. Elle a toujours bien le droit de parler puis de réagir quand le port de sa ville est peut-être sur le point de fermer. Puis d'avoir un impact économique plus que négatif. Donc, en principe, c'est demain. L'avis de grève a été transmis. Alors, à suivre. Dans le Journal de Montréal ce matin, un projet de maison de jeu qui serait lié au crime organisé sur le territoire de Kanisetake commence à inquiéter pas mal de monde. On apprend que le casino devrait être érigé sur des terrains qui appartiennent à Sharon Simon, qui est une trafiquante, là, c'est connu dans le coin, la reine de Kanisetake, et que autour d'elle se trouvent, disons, des personnages importants du crime organisé, Martin Robert des Hells Angels, Stéphane Plouffe des Hells, et le clan italien également, Leonardo Rizzuto, le fils du parrain, Vito Rizzuto, et Stefano Sollicito, qui sont en fait deux têtes dirigeantes, dit-on, de la mafia, et que c'est une opération qui permettrait de blanchir pas mal d'argent. Donc, à lire dans le Journal de Montréal ce matin. Dans la catégorie des dérapages, un prof de cégep qui avait été congédié pour des propos racistes qu'il avait tenus va retrouver son emploi. C'est qu'on nie pas là, la gravité des propos, là, de ce qu'il a dit, mais on pense que ça ne mérite pas un congédiement. C'est en tout cas la décision de l'arbitre qui dit que foutre à la porte le prof, c'est une décision beaucoup trop sévère. C'est un prof de philosophie qui s'appelle... En fait, le prof en question, juste peut-être vous dire ce qu'il a dit, là, le prof Éric Tremblay, c'est que il y a un étudiant qui dit « j'ai des origines autochtones », mais c'est un jeune homme qui a les yeux bleus. Et réponse du prof, c'est que sans doute, ta grand-mère a été violée. Alors, plainte... pour avoir du niaiserie de même, mais ça ne va pas jusqu'au congédiement. Alors, on peut lire ça dans le Journal de Montréal. Également, sondage ce matin publié, ça vient d'entrer, là, c'est tout chaud. Pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité au Québec, selon le Conseil du patronat. La moitié des entreprises disent qu'ils refusent des contrats parce qu'ils n'ont pas les ressources pour livrer le contrat. Il y a pourtant un taux de chômage qui demeure officiellement élevé, quoique la performance de l'emploi au Québec est relativement bonne. Mais ce qu'on remarque, c'est que, oui, il y a l'effet de la pandémie, mais il y avait déjà un problème structurel de pénurie de main-d'œuvre. Puis on le voit dans le secteur immobilier, dans le secteur de la construction. 93 % des répondants disent avoir des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. La misère à trouver des gens pour occuper les emplois. Ce qui, je pense, nous amène à faire la pause, mais juste avant, peut-être pour nous encourager. Je regardais ce matin l'Angleterre qui rouvre terrasses et pubs et les gyms après 3 mois de confinement. 60 % de la population a reçu une première dose de vaccin et l'ensemble des adultes devraient recevoir le vaccin d'ici la fin du mois de juillet. Et ça a été dur, là, en Grande-Bretagne. Il y a eu des vagues quand même puissantes. Donc, ça veut dire que les Anglais, dans certains cas, ça a commencé à minuit hier soir, heure locale, retour sur les terrasses, salons de coiffure, les gyms. Il y a même le premier ministre qui dit « j'ai hâte de prendre une pinte de bière puis d'aller sur la terrasse avec des amis ». Alors, il y a une certaine normalité qui revient du côté des Britanniques. Il est 6h23. La métropolitaine, monsieur.